Bonjour. Eh oui, vous êtes à nouveau sur Glissando, sur Radio Graphite. Vous savez, Glissando, c'est votre émission de musique classique et pas que. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des musiciens du roi. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce que le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, et la reine consort Camilla devaient venir en France pour leur première visite d'État du roi. Mais en fait, vous le savez bien, les événements actuels ont fait que leur première visite officielle a été pour Berlin le 29 mars 2023. Voilà, alors du coup, moi j'ai cherché des musiques et tout un programme autour des musiciens des rois. Alors on va déjà parler en premier, du coup, d'un certain Henri Dumont. Alors Henri Dumont, il est né en fait à Luz, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, une ville relativement importante, qui était en fait dans le pays de Liège. Mais le calme relatif qui régnait sur le pays de Liège, à l'époque, donc vers 1610, ce calme n'allait pas durer car la guerre allait bientôt faire rage. C'est sûrement à cause de cela que la famille s'est déplacée en fait à Maastricht. Et c'est dans cette ville que Henri Dumont et son frère Lambert firent partie de la maîtrise de Notre-Dame de Maastricht, dès 1621. Et c'est là qu'il est reçu une solide éducation générale et musicale. Il n'âgeait que de 16 ans lorsque ses maîtres reconnaissent son talent et il est nommé organiste de Notre-Dame de Maastricht. C'est quand même déjà sérieux, vous voyez. Plus tard, en 1638, il ira s'installer en France, où il tenait les orgues de quelques couvents de la capitale. Alors, on ne sait pas trop, ça reste assez vague. Il est tout de même officiellement engagé comme organiste de l'église Saint-Paul, le 4 avril 1643, et exercera cette fonction jusqu'à la fin de sa vie. Grâce à ce poste, eh bien, Henri Dumont devient l'organiste le mieux payé de Paris. Et ceci assure bien sûr sa position et sa notoriété. Il était donc très bon organiste, sinon on ne lui aurait pas donné justement cette charge. Donc organiste, mais aussi claveciniste, enseignant et compositeur. Et du coup, il a été présenté dans les salons mondains où s'organisaient des concerts privés. C'est ainsi que se diffuse son œuvre, avant même les premières publications imprimées. En 1647, le compositeur reçoit ses lettres de naturalité, faisant de lui un sujet de Louis XIV à part entière. Puis il est nommé claveciniste du duc d'Anjou, le frère du roi, et fait ainsi son entrée à la cour. En 1660, le roi Louis XIV se marie avec l'infante Marie-Thérèse. Et ce qu'on appelle la musique de la reine doit se constituer, et avec elle, Henri Dumont, qui devient son organiste. Il passe aussi réussi le concours de sous-maître de la musique de la chapelle et occupe ainsi les hautes fonctions de la cour dans le domaine de la musique sacrée. Alors vous allez me dire, c'est un drôle de nom, hein, sous-maître de la musique de la chapelle. Alors j'ai quand même cherché ce que ça voulait dire. Donc, le sous-maître, il avait pour tâche non seulement d'assurer la musique lors des cérémonies religieuses quotidiennes, parce que le roi assistait quasiment tous les jours à la messe basse, durant lesquelles étaient chantés quelques motets. Mais il devait aussi former les jeunes chanteurs qui chantaient les parties de soprano. Soprano, vous savez, c'est les voix un peu hautes dans le chant. Le sous-maître compose donc beaucoup. Il devient le compositeur aussi de la musique de la chapelle et obtient la charge de maître de la musique de la reine. Il meurt en mai 1684. Il fut donc l'une des figures importantes de la vie musicale de la chapelle du roi. Aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce musicien laissa pourtant une empreinte indéniable, tant par ses charges à la cour de Louis XIV, que par ses activités de compositeur, claveciniste, organiste et enseignant. Il est notamment le principal créateur du genre du grand motet, une nouvelle figure musicale très en vogue à la cour du roi. Alors, en France, le motet devient une des formes principales de la musique sacrée, avec des effectifs souvent importants. Donc du coup, on l'appelait grand motet. Le grand motet fait partie intégrante de la vie de cour. Tous les matins, on chante trois motets, un grand, un petit, voilà, on en chante, vous voyez, plusieurs. En France, le motet connaît d'ailleurs au XVIIe une véritable éclosion à la cour de Versailles, où il est divisé en deux grandes catégories selon le degré de solennité de l'office, c'est-à-dire la richesse de l'instrumentation et du nombre de chanteurs nécessaires. Le grand motet est donc le plus majestueux. Certains ont même osé le qualifier de pompeux. Je vous propose, par le Centre de musique baroque de Versailles, un motet, Ecce iste venit, donc que vous allez entendre, avec soprano, haute contre, taille, et basse. Ça, c'est les différentes sortes, je vous dirais, de voix, voilà, plus aiguës ou plus graves, et des violons, violoncelle, théorbe, basson et orgue.
Thank you.
Alors, j'aurais quand même vous faire profiter un petit peu des paroles qui, en fait, sont en latin et qui disent « Le voici qui vient, sautant au-dessus des montagnes, passant par-dessus les collines, mon bien-aimé est semblable à un chevreuil. Le voici qui se tient derrière notre muraille, qui regarde par les fenêtres, qui jette sa vue au travers des barreaux. Voilà mon bien-aimé qui me parle et qui me dit « Levez-vous !» Hâtez-vous, ma bien-aimée, ma colombe, mon unique beauté, et venez, car l'hiver est déjà passé. Les pluies se sont dissipées et ont cessé entièrement. Les fleurs paraissent sur notre terre. Le temps de tailler la vigne est venu. La voix de la tourterelle s'est fait entendre dans notre terre. Les vignes sont en fleurs et on sent la bonne odeur qui en sort. Levez-vous, ma bien-aimée, mon unique beauté, venez.
Thank you.
Oui, nous avons commencé ce mercredi matin tout en douceur avec ce grand motet donc de Henri Dumont. Donc nous allons rester en fait au XVIIe siècle avec un musicien qui a joué pour les rois. Je ne pouvais pas oublier bien entendu Jean-Baptiste Lully, un compositeur français d'origine italienne, né à Florence en 1632 et il est mort à Paris en 1687. Il était compositeur, musicien, danseur, chorégraphe. Il a vraiment marqué la musique de son temps. Et tout son génie, en fait, repose sur la fusion des traditions musicales italiennes et françaises, puisqu'il a habité en Italie et qu'il est venu en France après. Il était issu d'une modeste famille de meuniers italiens. Et du coup, il s'était fait remarquer par le jeune Louis XIV pour ses qualités de violoniste et de danseur. Du coup, le souverain lui offre le titre de compositeur de la musique instrumentale. Lully consacra la première partie de sa carrière à la musique de ballet. Aux formes musicales françaises, il apporte une précision et une clarté de structure et d'écriture beaucoup plus grandes. Il simplifie l'art vocal et retient de la tradition italienne le recitativo qu'il adapte dès ses premières compositions dans le cadre de l'ère à la française. Alors le recitativo, c'est un peu, comment vous expliquer, un peu comme si tout à coup le chanteur allait faire un discours en chant. Voilà, qui peut en fait prendre des proportions un petit peu importantes, un peu libres, voilà. Et c'est très très important justement dans ses compositions. Suite au décès du cardinal Mazarin, la prise du pouvoir par le Louis XIV sera décisive pour la carrière de Jean-Baptiste Lully. S'associant d'ailleurs avec Molière, Lully crée avec lui un nouveau genre qui concilie la comédie, le chant et la danse. En fait, c'est la comédie-ballet. Cette collaboration prend fin quand même en 1671 et du coup, le compositeur s'attache l'année suivante à Philippe Quinault comme librettiste. C'est avec lui qu'il met en place la tragédie lyrique ou l'opéra à la française, genre dans lequel il incorpore de nouveau un récitatif, donc calqué sur les impulsions de la déclamation et singulièrement adapté à la langue. Il faut dire aussi que Jean-Baptiste Lully a fondé l'Opéra de Paris et son orchestre. Le pauvre, il est mort à Paris à la suite d'une grande gangrène causée par un coup de canne fatal. Alors, la canne, je vais vous expliquer. Lully y dirigeait donc l'orchestre. À l'époque de Lully, au XVIIe, la baguette que le chef d'orchestre tient maintenant à notre époque dans sa main et avec la baguette avec laquelle il dirige l'orchestre, ça n'existait pas. Donc ils avaient comme un grand bâton, si vous voulez, qui était assez long d'ailleurs, et ils frappaient le sol pour donner en fait la vitesse, donc on va dire le tempo, à tous les musiciens qui étaient là pour qu'ils soient ensemble. Et malheureusement, une fois, il s'est tapé sur le pied. Et ça a été tellement moche, sa blessure, que du coup, il a eu la gangrène et qu'il en est mort. Et tout ça, en fait, il dirigeait en plus le Te Deum pour la guérison du roi. Alors, vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas de chance. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais vous faire écouter, bien sûr, du Lully. Mais avant, il y a aussi un compositeur qui s'appelle Nicolas de Rosier. Alors, à la même époque, il était guitariste, compositeur, éditeur, théoricien hollandais d'origine française. Il est né à Chalon-sur-Saône, mais il a vraiment passé la majeure partie de sa vie aux Pays-Bas, si on croit le nombre de ses œuvres qu'il a publiées en fait à Amsterdam. Il a commencé sa carrière de musicien en tant que fifre chez les mousquetaires et il a participé aux festivités de la cour du roi Louis XIV. Alors, vous savez ce que c'est qu'un fifre ? Eh ben, si vous avez entendu un fifre tout près de vous, c'est un peu strident, hein ? C'est une toute petite flûte traversière à 6 trous, au son aigu, je dirais même au timbre perçant, et qui était utilisée autrefois dans les fanfares militaires. Donc, nous allons écouter une œuvre de Nicolas Desrosiers, l'Assemblée des Mousquetaires. On entendra aussi un extrait justement Des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Alors je vous rappelle quand même qu'Alexandre Dumas est né tout près de chez nous puisqu'il est né dans l'Aisne à Villers-Cotterêts en 1802. Voilà, c'est un petit rappel un petit peu à ce qui s'est passé avec Parole sur la langue française. Vous savez, ces trois semaines justement qui ont eu lieu sur la langue française. Voilà. Et puis, tiens, en parlant des Trois Mousquetaires, alors je saute aussi sur le film que vous avez peut-être vu ou que vous allez le voir, Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, avec François Civil, Romain Duris et Vincent Cassel. Et alors, si vous regardez bien dans le film, il y a une scène qui a été filmée sur un des côtés du château de Compiègne. Pardon. Et du coup, cette rue a été bloquée pendant un bon moment, justement, pour qu'il puisse, en fait, faire la scène du film dans cet endroit-là. Donc, trois parties. La troisième, ce sera La marche du régiment du roi, justement, de Jean-Baptiste Lully. Donc, je vous invite. On y va.
Un jeune homme. Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans. Don Quichotte décorcelé, sans aubert et sans cuissard. Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lie de vin et d'azur céleste. Visage long et brun, la pommette des joues saillantes, signe d'astuce. Les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le Gascon, même sans béret. Et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume. L'œil ouvert et intelligent, le nez crochu mais finement dessiné, trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait et qu'un œil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans sa longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme avait une monture, et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn, âgé de 12 ou 14 ans, jaune de robe, sans crin à la queue, mais non pas sans javard aux jambes, et qui, tout en marchant, la tête plus bas que les genoux, ce qui rendait inutile l'application de la martingale, faisait encore également ses 8 lieues par jour. Malheureusement, les qualités de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue que dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, l'apparition du susdit bidet à main, où il était entré il y avait un quart d'heure à peu près par la porte de Beaugency, produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. Et cette sensation avait été d'autant plus pénible au jeune D'Artagnan, ainsi s'appelait le Don Quichotte de cette autre Rocinante, qu'il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fût, une pareille monture. Aussi avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait Monsieur D'Artagnan père.
Thank you.
Alors, vous voyez que c'était vraiment une musique militaire, hein, puisque c'était la marche du régiment du roi sur le premier et deuxième air sur les Folies d'Espagne. Vous avez pu entendre le fifre au début, hein, donc cette petite flûte assez stridente. Et là, justement, dans cette marche du régiment donc de Jean-Baptiste Lully, vous entendiez les hautbois et aussi il y avait du solo de basson aussi qu'on entendait. Vous savez, le basson, je vous avais expliqué une fois, ça fait un peu, quand vous regardez l'orchestre, un espèce de gros tuyau comme ça, un peu marron, hein, qui fait plus d'un mètre de long. Et voilà, et qui s'utilise avec une hanche. A-N-C-H-E, comme le hautbois, une hanche qui est faite en fait en roseau, qui est pincée par les lèvres du musicien pour en jouer. Et bien sûr, le tambour qui a un rôle prédominant, justement, puisque marche du régiment, c'est pour faire marcher les soldats. Donc il faut vraiment qu'il y ait un peu de punch, on va dire. Alors dans un tout autre style, mais toujours avec Jean-Baptiste Lully, il y a aussi, et je vous proposais, un extrait de l'opéra en 5 actes qu'il avait écrit, qui s'appelle « Attis », et qui était écrit en fait tout à la gloire de Louis XIV, et qui remporta en 1676 un tel triomphe que cet opéra devint l'opéra du roi Soleil. Le temps promet une gloire éternelle à Louis XIV, le plus grand des héros. Alors voilà, eh bien, allons-y, on va écouter un extrait, justement, d'Attis.
Couleur, il a séché les pleurs,
Donc voilà, c'était un extrait. On ne va pas écouter, bien sûr, tout l'opéra qui dure quand même un certain temps. Voilà, cet opéra en 5 actes, il s'appelle Attis et qui est de Jean-Baptiste Lully et qui était interprété magnifiquement avec un ensemble qui s'appelle Les Arts Florissants, dirigé par William Christie, qui est justement, comment dirais-je, un des meilleurs chefs justement pour William Christie pour la musique baroque. Et justement, les musiciens qui jouent aussi sur des instruments baroques, le clavecin, des cordes, le théorbe, etc. Voilà. On a parlé de Lully et on ne peut pas ne pas parler de Jean-Philippe Rameau. Parce qu'il est souvent comparé à Lully, qui était pourtant 50 ans plus vieux que lui, à juste titre parce qu'il continue à utiliser les mêmes formes que lui. Mais à tort pour ce qui est du contenu, parce qu'il est quand même plus riche. Alors Rameau, français aussi, il est né en 1683 en fait à Dijon. Il est mort à Paris en 1764. Il a 50 ans, c'est la fin d'une vie à une époque, là, 17-18e, hein, à cette époque-là, c'était une fin de vie, c'est plus comme maintenant. Hein. Donc il a 50 ans lorsqu'il compose sa première œuvre représentée à l'opéra. Cette première œuvre s'appelle Hippolyte et Aricie. C'est une tragédie lyrique, dans la tradition de Lully, d'une qualité musicale peu commune. Le public lui fait un accueil chaleureux et encourageant, et le rêve de Rameau se réalise. Il devient en quelques années le plus grand musicien français. Dardanus aussi, sa troisième tragédie lyrique, composée à 56 ans, fait partie des plus belles œuvres de cette époque. La musique en est même exceptionnelle. Une autre œuvre, Les Indes galantes, son premier opéra, composé à 52 ans, est à nouveau un chef-d'œuvre dont les danses impressionnent beaucoup. Rameau a donc le don de réussir à la fois dans le registre sérieux, voire tragique, et aussi dans le registre léger. Il disparaît en pleine gloire à 81 ans, hein, c'était beau hein, pour l'époque, après avoir été anobli et avoir obtenu une pension de la cour, ainsi que le titre de compositeur du cabinet du roi. Nous allons écouter donc un extrait des Indes galantes. Donc cette fois, c'était sous le règne de Louis XV. On entend aussi des bassons, des hautbois, mais je vous laisse deviner. Thank you. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cet air si connu là, des Indes galantes, mais vous ne saviez peut-être pas que c'était Jean-Philippe Rameau qui avait écrit ça. Alors on n'a pas que des compositeurs français, on a aussi des compositeurs anglais qui ont fait de la musique pour les rois. Alors il y a Händel, mais qui était en fait au départ un compositeur allemand qui a plus tard été naturalisé britannique en 1726. Il s'appelait Georg Friedrich Händel. C'est un compositeur, donc voilà, allemand du 18e, qui après s'est fait appeler Händel puisqu'il était en Angleterre. Admiré du public, il fréquentait l'élite intellectuelle et sociale de son époque. Il a fait beaucoup d'opéras, d'oratorios. Il apparaît à la fois comme un des derniers humanistes de la Renaissance, mais aussi comme un représentant du siècle des Lumières en Europe. Il laisse une œuvre immense et variée d'une grande spiritualité. Son père voulait qu'il devienne juriste, mais Händel a étudié la composition et joué de plusieurs instruments, est devenu compositeur et je crois qu'il a vraiment bien fait. C'est en 1712 qu'il s'est installé à Londres, où là il était devenu compositeur officiel de la couronne. Alors, on va écouter Water Music, cette belle suite de Händel, qui en fait était pour une fête, le 17 juillet 1717, vous voyez, ça fait beaucoup de sept là, à Londres pour le roi. C'était une création sur la Tamise, lors de fêtes aquatiques.
Thank you.
Eh bien, vous savez, une heure, ça passe très très vite. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir, écouter plein de belles œuvres, mais le temps passe trop vite. Alors, je vais vous laisser quand même encore avec Water Music. Je ne vais pas vous laisser comme ça couper, ce serait horrible. Donc, je vous laisse en présence de Georg Friedrich Händel pour cette Water Music. Et je vous dis à mercredi prochain sur Dizando.